Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'affaire Salif Bey que nous racontons cette semaine, c'est l'histoire d'un Sénégalais qui vit depuis un an à Bayonne avant d'être accusé de viol par 5 jeunes femmes bénévoles dans un collectif d'aide aux migrants et chassé du Pays Basque. C'est une affaire qui pose plus de questions qu'elle ne propose de réponses et suscite des débats, des discussions, y compris un peu vifs, c'est un euphémisme, qui nous semble nécessaire et intéressant. Elle parle de la parole des victimes de viol, difficile à prononcer, rarement entendue, souvent mise en cause, presque jamais prise en compte à la fin, mais qui doit quand même être énoncée quelque part à un moment donné. Elle parle de la justice qui, on le sait, fait mal son travail lorsqu'il s'agit de femmes victimes de viol, et des alternatives envisageables pour punir les violeurs, pour faire justice soi-même sans que ces actes deviennent des vengeances. À ce titre, plusieurs cas nous ont été rapportés de femmes ou de groupes qui ont souhaité exercer une justice collective envers des agresseurs sexuels. Dans l'enseignement supérieur, plusieurs victimes d'un agresseur sexuel se sont ainsi réunies et l'ont mise en demeure de leur verser une indemnité financière et d'abandonner son mémoire de recherche. D'après nos informations, il semble que cette façon de procéder ait été assez satisfaisante pour les victimes. Dans un petit parti politique de gauche, plusieurs femmes victimes du même agresseur sexuel ont aussi décidé de punir cet homme. Là, nous n'avons pas beaucoup de détails, sauf qu'elles auraient saccagé totalement son appartement. Dans aucun des cas que nous avons repérés, les victimes n'ont hélas souhaité s'exprimer. La chercheure et activiste Juliette Rousseau travaille sur ces questions et explique que la vengeance communautaire offre plusieurs avantages. Entre autres, c'est pas cher et rapide. Et on répare des torts qui ne sont pas toujours punissables pénalement, certaines formes de harcèlement, des violences sexuelles difficiles à caractériser, etc. La question reste ouverte bien sûr, mais je tenais à mentionner ces initiatives et réflexions qui ne sont pas anodines. Pendant ce temps, à Bayonne, Salif, lui, est définitivement devenu persona non grata. Même ses amis du club de foot doutent de son innocence et l'ont suspendu provisoirement. La seule personne disposée à accorder à Salif le bénéfice du doute, c'est Marie Cosnet, qu'il a bien connue, ainsi que les 5 femmes qui l'ont chassé. On finit donc cette enquête avec de nouvelles questions et quelques pistes. Faut-il vraiment un coupable ? C'est une série d'Adila Benedjaizou, réalisée par Clémence Gross.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Allô?
Oui, Aliba. Je me suis senti comme si j'étais un objet, quoi, avec eux.
J'enquête sur Salif, un migrant sénégalais qui a été accusé de viol et chassé de chez lui par 5 femmes. Coralie, Noémie, Cathy, Marianne et Lucie. Parmi elles, seule Lucie déclare avoir été violée. De son côté, Salif déclare qu'il est innocent, qu'il était amoureux de Lucie et qu'il a eu une aventure avec Cathy. Mon enquête piétine, jusqu'au jour où j'apprends qu'une plainte pour viol a été déposée contre Cathy par Moïse, un jeune Guinéen. Le jour où j'ai rencontré Moïse, il avait tellement peur que je le filme à son insu qu'il a exigé que je pose mon sac à plus de 10 mètres de lui. Il avait envie de me raconter son histoire, mais il avait peur que son témoignage nuise à son procès et à sa procédure de régularisation. Alors, nous avons décidé ensemble qu'il témoignerait par téléphone et que ce serait essentiellement moi qui raconterais ce qui s'est passé. Comment t'as fait la connaissance de Cathy et Marianne?
Je me suis connu en premier avec Cathy quand je suis arrivé à Bayonne. Quelques jours après, c'est Cathy qui a parlé à Marianne de moi.
Quand Moïse arrive à Bayonne, ça fait 2 ans qu'il a quitté la Guinée. Il est aussitôt hébergé par Cathy et par Marianne. Ce sont 2 des 5 femmes qui ont chassé Salif. Marianne, c'est la douce, et Cathy, la mystérieuse. À l'époque, Moïse a 17 ans, Cathy a 28 ans et Marianne 33 ans. Malgré leur différence d'âge, ils s'entendent très bien et passent souvent des soirées tous les 3.
On faisait qu'il a fait et la fête. On parlait
Ils boivent des bières, il y a quelques pétards qui tournent. Les filles aiment bien que Moïse leur passe de la musique, du reggae, qui leur fasse découvrir des rappeurs américains aussi. Les deux femmes lui font confiance et lui racontent leurs problèmes. Elles en veulent à un certain Salif.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Marianne dit que ce Salif a violé Cathy. Elle est particulièrement fâchée contre lui et contre son ami Campbell. Elle confie à Moïse qu'elle garde le passeport de Campbell chez elle en représailles. Un soir, alors qu'ils sont tous les trois chez Marianne, Cathy décide de rester dormir. Mais elle ne veut pas dormir avec Marianne, qui tousse trop fort, dit-elle. Elle dort donc avec Moïse dans le canapé-lit du salon. Il sent qu'elle attend quelque chose de lui, mais il n'ose pas bouger.
C'est lorsque j'ai pensé dans ma tête, j'ai pensé qu'il m'a aidé juste parce qu'il veut coucher avec moi, ou bien c'est parce qu'il veut m'aider.
À partir de ce soir-là, Cathy et Moïse dorment régulièrement ensemble, et bientôt, ils couchent ensemble. J'ai demandé à Moïse comment c'était arrivé. Il a refusé d'entrer dans les détails.
En fait, je te dis la vérité, moi je ne voulais pas au fond de mon cœur. Au fond de mon cœur, je ne voulais pas, mais je me disais que si je la refuse, après ils vont me virer chez eux, je n'ai pas où y aller.
Les nuits se succèdent et Moïse n'ose parler à personne de ce qui se passe. Jusqu'au jour où il craque et se confie à Marianne.
J'ai pensé qu'elle allait réagir autrement.
Elle lui demande si Cathy l'a forcé. Il répond non. Alors, Marianne ne voit pas où est le problème.
Après, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème, je voulais juste te tenir au courant parce que je ne vais pas garder ça dans mon cœur.
Pourtant, à partir de cette conversation, les relations entre Moïse et les deux femmes se gâtent. Ils ont plusieurs engueulades, très violentes. Et Marianne et Cathy finissent par couper le contact avec Moïse.
Ils ont commencé à me bloquer, ils appelaient ma femme.
Le problème de Moïse, c'est que c'est Marianne qui garde son extrait d'acte de naissance qui est indispensable pour faire reconnaître sa minorité. Effrayé de subir le même sort que Campbell et Salif, il décide de récupérer ses papiers, coûte que coûte.
J'ai décidé d'y aller là-bas, pénétrer son appartement, si je ne vois pas, pour récupérer des affaires.
Furieux, Moïse n'écoute pas ses amis qui essayent de le dissuader et forcent la porte de Marianne. Mais dénoncé par les voisins, il est arrêté par la police et mis en garde à vue. Il raconte toute son histoire aux policiers qui l'emmènent dans un foyer pour mineurs. Il ne reverra plus jamais ni Cathy, ni Marianne. Mais apprend que Marianne a déposé plainte contre lui pour cambriolage. Au foyer, Moïse commence à voir les choses différemment. Il décide de porter plainte pour viol contre Cathy. Il sait bien sûr que ce qu'il a vécu n'est pas vraiment un viol, mais il a le sentiment d'avoir été utilisé.
Mais je sais qu'il m'avait donné sûrement parce qu'il avait besoin de moi. Sexuellement, c'est ce qu'il est pensé. Ils m'ont hébergé pour coucher avec moi.
Quand j'ai demandé à Moïse s'il n'avait pas eu peur de porter plainte, voici ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit qu'il n'avait plus peur de rien depuis qu'il avait traversé la Méditerranée en Zodiac.
Et on a fait un naufrage. On avait 3 bidons d'essence. On a tout brûlé, tout est fini. On ne pouvait pas bouger. Et du coup, on était nombreux dans le Zodiac. Quand il y a les vagues, il y a un petit peu de l'eau qui rentre dans le Zodiac. Au bout d'un moment, le Zodiac est descendu dans l'eau. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. On a resté des heures dans l'eau. Il faisait trop froid et personne ne parlait à personne. Les gens criaient, ils pleuraient. Je pleurais pas parce que ça dépassait de pleurer. J'ai pensé à la mort. C'est quoi la mort? Je me disais que c'est le moment pour moi aussi de mourir, de savoir c'est quoi la mort. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé après? Après, on a vu le bateau de sauvetage, la croix ou l'espagnol. Moi, c'est comme un film. On était 44, je crois. 44 dedans et il n'y avait que 4 personnes qui ont pu survivre.
4 sur 44.
Ouais, si je ne me suis pas trompé.
J'ai compris que malgré son jeune âge, Moïse était plus fort que Cathy et Marianne. D'une force chèrement payée, qui faisait de lui quelqu'un de bien plus adulte que ces deux femmes. Le plus troublant, c'est que s'il n'y avait pas eu une affaire Salif, il n'y aurait sans doute pas d'affaire Moïse. Mais est-ce que Salif, lui-même, n'aurait pas subi l'effet papillon d'une autre affaire qui l'a précédée? Depuis le début, il y a une femme parmi les 5 qui m'intrigue particulièrement. C'est Coralie, la coléreuse. C'est elle qui a accusé publiquement Salif et c'est elle qui l'a dénoncé dans tout Bayonne. Coralie me paraît à la fois la moins concernée et la plus énervée dans cette affaire et je ne comprends pas pourquoi. Je rencontre Florence qui a bien connu Coralie parce qu'elle a été bénévole dans la même association d'aide aux migrants. En tant que psychologue, elle l'a rencontrée à l'occasion d'une autre affaire de viol.
Elle avait vécu, selon ses propos, elle avait vécu un viol d'un homme, père de famille, d'une famille migrante, accompagnée par l'association. Et elle l'a évoqué à la responsable de l'association. Et à ce moment-là, la responsable l'a écoutée. Elle lui a même conseillé de déposer plainte, ce que Coralie a fait. Mais par la suite, en fait, l'association a eu beaucoup de mal à gérer cette situation. Elle a fait, à mon sens, ce qu'elle a pu, mais ce qu'elle a fait, en tout cas, c'était de dire à Coralie, bon, écoute, tu as déposé plainte, c'est bien, mais non, nous, on peut plus t'aider, on gère cette famille-là, on peut pas prendre parti. Donc, ce qui serait bien, c'est, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que tu prennes un peu de la distance. Coralie, en fait, s'est sentie vraiment abandonnée.
Et vous savez ce qui est arrivé à la famille, à cet homme migrant qui avait agressé Coralie
qui a supposément agressé Coralie, parce que moi je reste toujours dans... En fait, il y a une plainte qui a été déposée et je ne sais pas du tout où elle en est. D'accord. Donc pour moi, je ne sais même pas ce qui s'est réellement passé et je ne peux rien dire là-dessus. Et en fait, elle avait déjà une relation avec cet homme avant même que l'association accompagne la famille.
Vous voulez dire qu'elle avait déjà une relation amoureuse avec ce migrant?
Voilà. D'accord. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je ne peux pas me prononcer sur ce qui s'est passé entre Coralie et cet homme, mais je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup de violence dans tout, parce que cet homme est effectivement violent.
Pour la première fois depuis le début de cette enquête, je me mets à la place de Coralie. Si j'avais été violée par un homme, non seulement un homme que j'aide, mais aussi un homme que j'aime, et si au moment où j'avais trouvé la force pour porter plainte, on avait soutenu mon agresseur et on m'avait demandé de céder la place, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. À Calais, les femmes qui travaillent dans les collectifs solidaires, on les appelle les putes à migrants. Et elles sont nombreuses car, là-bas comme ailleurs, la grande majorité des personnes qui aident les migrants sont des femmes, tandis que la plupart des migrants sont des hommes. Le fait de dire que c'est le rôle des femmes d'accueillir, de soigner et de nourrir, c'est du sexisme. Le fait de demander comme une chose naturelle à ces femmes d'absorber les traumatismes des personnes exilées, c'est du sexisme. Et le fait que, quand elles sont submergées par ces traumatismes ou par leurs propres émotions, on leur envoie le message qu'elles l'ont bien cherché, c'est aussi de la violence sexiste. Franchement, à la place de Coralie, j'aurais été très en colère.
Je voulais dire, ils ont un peu dans le cul. Par exemple, ils m'ont dit que j'ai voulu faire du mal à l'autre.
À Salif ?
Oui. Ils m'avaient dit qu'ils avaient fait un complot pour qu'il rentre dans le bar. Je ne sais pas s'il voulait casser quelque chose sur sa tête. Et il n'a pas accepté de rentrer. Et le plan a échoué.
Elles ont dit que leur plan avait échoué, c'est vrai ?
Oui, leur plan avait échoué. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient.
Mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire ?
Il voulait lui faire du mal.
Grâce à Moïse, la seule certitude à laquelle je suis arrivée au terme de cette enquête, c'est que cette histoire aurait pu finir beaucoup plus mal. Pour tout le monde. Sur tout le reste, je ne peux que faire des hypothèses. J'en ai fait énormément, mais ma préférée est la suivante. Salif, c'est le type qu'on n'assume pas. Vous savez, ce mec avec qui on passe une ou deux nuits, mais qu'on ne veut pas présenter à ses copines. J'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé pour Lucie, qu'elle était contente de passer deux jours à regarder la Casa del Papel et faire l'amour avec Salif, mais que ça n'allait pas plus loin. Sauf que Salif n'est pas resté à la place que Lucie voulait bien lui concéder. Il est allé raconter son histoire à tout le monde.
L'amour, j'ai dit ça à Noémie et son mari. Et j'ai demandé à Noémie conseil. Il m'a dit, oh, c'est bien, ça fait du bien, c'est cool, enfin. Parce que je veux que tu sois à l'aise.
Et quand Lucie a dû assumer son aventure devant ses copines, elle a peut-être légèrement déformé la réalité. Et Coralie, qui souffrait encore du viol impuni dont elle avait été victime, s'est enflammée. Salif devait payer pour tous les autres. Mais j'insiste, ce n'est qu'un scénario que j'ai imaginé. Peut-être que Salif a été abusé par des jeunes femmes qui avaient envie de lui mais qui par la suite n'ont pas assumé leur désir. Ou peut-être que Salif a abusé, à la faveur de la nuit, de jeunes femmes qui n'ont pas su lui faire comprendre qu'elles n'avaient pas envie de lui. Franchement, ce qui s'est passé entre Salif et ses femmes, je ne le sais pas et je pense qu'on ne le saura jamais. Je sais juste que si tout ça a pu avoir lieu, c'est parce qu'aujourd'hui, en Europe, un Salif n'a pas les mêmes droits que vous et moi. C'est ce qu'explique très bien Obépine Dahan, qui milite à Paris d'exil.
On est là pour voir à quel point les gens qui arrivent, ils sont détruits par la fermeture des frontières. Et toutes les merdes qu'ils ont vécues sur la route, on ne parle pas des merdes qu'ils ont vécues chez eux, et qu'ils arrivent et qu'ils sont complètement ruinés. Quand tu penses qu'ils ont laissé 5000 balles, 10 000 balles à des passeurs et tout ça, t'as les boules, tu vois. Tu te dis, j'aurais préféré qu'ils arrivent avec leurs 5000 balles et qu'ils démarrent avec ça, quoi. Tant qu'à faire dans un avion, sans avoir été obligé de coucher avec 10 mecs sur la route, sans être enceinte en arrivant, à 16 ans, si possible, quoi. Donc on est là pour voir qu'en réalité, ce qui pose problème, c'est pas les gens en eux-mêmes. Donc il y a des malins, des pas malins, des gentils, des moins gentils. Donc c'est pas les gens en eux-mêmes qui posent problème. C'est dans quel état ils arrivent et que quand ils arrivent ici, ils sont dépouillés de leurs droits. C'est-à-dire que demain, tu décrètes que n'importe qui, conformément à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits humains de 48, toute personne est libre de s'installer dans le pays de son choix. T'as genre 1000 problèmes qui dégagent, quoi. Et voilà, et nous, on est là pour voir l'effet sur les corps humains et sur le corps social de cette inégalité des droits. S'il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas besoin de solidarité.
Comment faire pour que nos solidarités ne produisent pas encore plus d'inégalités ? L'histoire de Salif ne le dit pas. Alors je ne voulais pas qu'on se quitte sans vous raconter l'histoire de Sophie, qui était bénévole dans le camp de Calais au moment de son démantèlement et qui a réussi à conjuguer solidarité, sentiment et égalité.
Alors la première rencontre, j'ai été faire une observation dans un centre de santé qui était situé au cœur du camp. Et dans ce centre de santé, c'était une ONG britannique avec du coup des bénévoles professionnels de santé du monde entier qui venaient. Et du coup, Adam était l'un de ses traducteurs. Donc en fait, la première rencontre, ça a été très professionnel. Et puis en fait, c'est la deuxième fois où on s'est rencontrés que tout a basculé, entre guillemets. C'était un matin, on était tôt sur le terrain, il devait être 8h30, 9h. Et j'étais en train de ramasser les poubelles. Et donc lui, en fait, il allait prendre sa douche. Et il m'a vu. Il est venu vers moi pour me saluer. Donc j'ai enlevé mes gants pleins de poubelles. On s'est serré la main. Et en fait, cette poignée de main, ça a été... Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vraiment d'extrêmement fort. Pour tous les deux, parce que on s'est regardé. Chacun de son côté, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Et puis après, on a été amenés à se recroiser pas mal. De fil en aiguille, on en est venu à discuter un peu plus, quoi. J'étais en colère après moi d'être attirée par cet homme. Et j'avais honte d'être attirée par cet homme. Et donc, j'ai vraiment résisté, en fait. Et puis un jour, où j'ai eu un jour de congé, lui, il bossait pas non plus ce jour-là. Moi, j'en pouvais plus du camp, j'en pouvais plus de tout ça. Donc je lui dis là, j'en peux plus. Est-ce que ça te dit qu'on aille se balader en dehors de Calais, en dehors de tout ça, je sais pas, on va à la plage, on va se balader, quoi. Tac, on est parti, super journée, on a juste marché, discuté, voilà. Et puis, je le redépose au camp le soir, et là, il me dit, j'aimerais bien que tu sois ma petite amie. Et là, en fait, je lui ai dit, oulala, Adam, c'est vraiment trop compliqué. Et puis, bon, il m'envoyait des petits messages le soir, on s'envoyait des petits textos, mais gentillet, quoi. Et puis un jour, il m'a envoyé un texto un peu plus... bon, voilà, quoi. Un
peu plus... Explicite.
Un peu plus explicite, exactement. Et donc, là, c'était 2 jours avant la destruction du camp. Donc là, j'ai pris les devants, je lui ai dit, écoute, là, je pense qu'il faut qu'on se voit et qu'on parle. Donc on a été dans un endroit un peu discret, etc. Puis là, on a pu discuter un peu plus posément de ce qui se passait entre nous. Et c'est à ce moment-là qu'on a échangé notre premier baiser. Moi, j'étais très, 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 très mal à l'aise, très, 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 très stressée. Et en fait, le camp était détruit le lendemain. Donc moi, j'étais sur le terrain à 7h, au niveau du hangar dans lequel ils faisaient le tri en fait, des personnes. Et lui, il m'a vue parce que j'étais perchée sur un truc EDF. Donc il m'a vue, il m'a appelée, on s'est dit bonjour, quoi, en serrant la main, et on s'est pris en photo. Parce qu'on s'est dit, bon, on n'a même pas une photo de nous, quoi. Et puis on s'est quittés. Donc il est parti frontière suisse.
Et vous vous souvenez de quand vous l'avez revu, du moment où vous l'avez retrouvé?
Oui. En fait, on s'est retrouvés dans la rue devant la gare, parce que je connaissais pas du tout cette ville. On s'est pris dans les bras et ouais, on était super contents de se retrouver. Le lendemain, il avait un texto de son assistante sociale qui lui disait « Tu prends tes affaires et tu pars dans un hôtel ». Et donc là, tous les deux, on savait que c'était Dublin. Que là, il allait être expulsé.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est être dubliné?
Ouais. Quand on entre sur le territoire européen, le pays dans lequel les empreintes digitales sont prises pour la première fois, c'est le pays en fait qui devient responsable de la demande d'asile de la personne. Et donc, en fait, ce règlement Dublin, là, c'est un outil assez intéressant pour les préfets. En fait, c'est de leur responsabilité de décider s'ils annulent les Dublins ou s'ils les renvoient. Là, dans cette région-là, c'est systématiquement y renvoyer les Dublins. Donc il a été envoyé dans cet hôtel qui était en réalité une plateforme d'expulsion pour débouter et dubliner. Et je me suis installée avec lui dans l'hôtel pendant les 3 semaines, 1 mois où il est resté dans cet hôtel. C'était un truc assez dur, il faisait moins 15 degrés, on avait de la neige jusqu'aux genoux et il n'y avait pas de chauffage dans l'hôtel en journée, il n'y en avait que la nuit. On se faisait souvent réveiller par la police en fait, qui venait chercher des gens et un jour la police elle est venue le chercher lui. Au petit matin, alors qu'on se réveillait à peine, c'était horrible en fait. Et lui, on parlait en français, donc il a rien compris. Moi, j'ai compris, mais moi, j'étais au lit encore, on se réveillait. Et en fait, j'avoue que j'ai été dans une panique totale, toujours le truc de « je suis pas censée être là, qu'est-ce que je fais ?» et tout. Donc en fait, j'ai pas réussi à intervenir, j'étais paralysée. Ils lui ont dit « t'inquiète pas, on t'amène, tu viens avec nous, mais on te ramène dans 1 heure ». Ils l'ont emmené, ils lui ont fait signer un papier, en fait la notification de renvoi Dublin. Et à partir de ce moment-là, il était assigné à résidence, donc ça voulait dire qu'il devait faire acte de présence tous les matins à 9h à la gendarmerie. On va dire que c'est LE moment de l'histoire d'amour, on a basculé dans une histoire d'aide. Donc là, en fait, c'est devenu public notre relation. Lui, plein de fois, il m'a dit qu'il aurait préféré mourir en Méditerranée. Voilà, c'était super dur. Donc là, en fait, il y a eu des moments où il a commencé à rentrer dans un mutisme assez fort. Donc c'était très difficile, en fait, d'entrer en dialogue avec lui. Donc moi, j'ai appelé tout le réseau militant que je connaissais, parce qu'il y avait quand même une chose importante à savoir, c'est qu'au départ de Calais, il y a eu des promesses qui ont été faites par le ministre de l'Intérieur, qui avait promis que les personnes qui acceptaient de partir en CAO et qui relevaient de la Convention Dublin ne seraient pas renvoyées vers les pays de Dublin, mais auraient le droit de déposer leur demande d'asile en France. Et Ali, il est arrivé à l'improviste. Donc, il nous a fait une petite surprise. Ça a été quand même super compliqué pour Adam, parce que c'était un peu trop tôt dans sa procédure, dans ses démarches, quoi. On a beaucoup discuté, lui, il me disait qu'il pouvait pas au début, hein. Que c'était pas possible. Et pour moi, c'était pas possible de pas garder mon bébé. Donc, je lui ai dit que tant pis, en fait. Que on mettait fin à la relation. Et que je lui demandais rien et que je gardais mon bébé. Il a dit, ok. Il est resté en pointillé, on va dire. Il a reconnu le petit. Son statut, il est arrivé 15 jours après que je m'aperçoive que j'étais enceinte. Donc, tout s'est quand même enchaîné de manière assez positive. Et du coup, quand Ali est arrivé, on a décidé que je rentrais, en fait, dans l'Ouest. parce que pour accueillir le petit, j'allais être entourée de ma famille, de mon réseau social, et parce que en fait, dans l'Est, j'étais vraiment très 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 seule. Donc, je suis rentrée chez moi. Aujourd'hui, il est réfugié politique, il travaille, donc dans l'Est, et le projet, c'est qu'il nous rejoindrait après son contrat. Et du coup, la question se pose de savoir est-ce qu'il va ou pas venir nous rejoindre. Ali, il a quasiment 4 mois et il l'a vu 4 fois. Je me dis, est-ce que ça peut être possible en fait ? Toujours. Hein.
Et qu'est-ce qui rendrait la chose impossible ?
Je pense qu'il y a plusieurs choses qui rendent la chose impossible. Il y a le fait que lui, c'est quand même un homme brisé, qui nous aime profondément, mais qui n'y arrive pas, quoi. Qui n'arrive pas à être présent. Et du coup, de l'autre côté, moi, ça fait quand même un moment que je rame. Donc, en fait, malgré l'amour, ça reste quand même compliqué. Je me dis dans quelle mesure est-ce que j'ai encore la force d'attendre sans savoir, en fait, ce qui va... Et puis peut-être de vivre avec un homme qui sera jamais disponible, en fait, dans son cœur, quoi. C'est ça. Voilà.
Ça va ?
Oui, ça va.
Aujourd'hui, Kambal a obtenu l'asile politique. Moriba a été adopté par Panchika et Juan et il est en attente de régularisation. Moïse est protégé par l'aide sociale à l'enfance. Anna et moi marchons sur le chemin de la réconciliation. Salif, lui, est revenu en France mais n'a pas trouvé de nouvelle ville d'attache. Quant à Sophie, Adam et Ali, ils sont à présent réunis, en famille. I've been making time for tunes, making tunes a plenty. Find me at the boombox at the party sipping Henny. C'était l'affaire Salif B, dernier épisode « Faut-il vraiment un coupable ?», une série d'Adila Benedjaïzou réalisée par Clémence Gros et mixée par Bastien Varigou. Merci à Gilles Lavanant pour la musique, à Malijo pour l'illustration, à Moïse, à Florence, à Aubépine Dahan, aux bénévoles de Paris Exil et à Sophie ainsi qu'à Marine Turquie. Camille Richir s'est attachée de production des Pieds sur Terre. Sarah Djeriwi, c'est notre stagiaire. Les Pieds sur Terre 2019-2020, c'est aussi fini pour cette année. Merci à vous, chères et fidèles auditrices et chers auditeurs, podcastrices, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, podcasteurs, à être toujours plus nombreux à écouter les gens et leurs histoires, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous dire ce que vous pensez, parfois avec beaucoup de franchise. Merci à toute l'équipe des Pieds sur Terre, à toutes les productrices, super, géniales, et à toutes les filles et femmes des Pieds sur Terre et aux quelques hommes que nous accueillons toujours avec plaisir. Merci aux réalisatrices formidables et à Manu, à l'équipe du web qui nous soutient très fort, à Florent Latrive, Sébastien Lopoukine, ainsi qu'à la petite dizaine d'attachés de production qui se sont succédés cette année pour organiser l'émission et à Sandrine Chaperon qui est si difficile à remplacer. Tout l'été, retrouvez-nous dans les Pieds sur Terre quartier d'été pour le meilleur et le meilleur des Pieds sur Terre, des nouvelles diffusions chaque jour à 14h, des séries, des histoires uniques en podcast et en VOD. Bel été à toutes et à tous.